Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Nous avons tous détesté renflouer les banques. J'ai détesté, vous avez détesté, c'était aussi pénible qu'une visite chez le dentiste.
Sur les chemins du vendredi, où chaque semaine, nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Problématiques du jour, personnalités et essais en tout genre, une autre manière de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Et l'équipe des Nouveaux Chemins, c'est aussi la philosophie en train de se faire. Marianne Chassor, Colomba Grossi, David Pargamin, Antoine Ravon, Lucie Tardy et bien sûr Adèle Van Rett, avec Vincent Schmitt à la lecture des textes aujourd'hui, Nicolas Berger à la réalisation et à la prise de son Pierrick Monsigny. Aux États-Unis, les 1% les plus riches possèdent plus d'un tiers de la richesse du pays et plus que la richesse cumulée de 90% des foyers américains les moins privilégiés. Se demander si une société est juste revient à se demander comment s'y répartissent les choses auxquelles nous accordons de la valeur. Revenus et patrimoine, devoirs et droits, pouvoirs et opportunités, positions et honneurs. Une société juste est une société qui répartit ses biens comme il convient. Elle donne à chacun ce qui lui est dû. Pourtant, l'affaire se complique quand on cherche à déterminer ce qui est dû et pourquoi. Comment et sur quels critères répartir des biens, tel est bien l'enjeu de la justice. Et tel est bien l'enjeu d'un cours donné par le philosophe américain Michael Sandel à l'université d'Harvard, cours en forme de performance au succès retentissant et que l'on peut découvrir directement sur le site de l'université. Paru sous forme de livre en 2009, il est enfin traduit en français et vient de paraître chez Albin Michel. Pour parler donc de justice et de la chose qu'il convient de faire, eh bien j'ai le grand plaisir de recevoir Michael Sandel en personne. Bonjour et bienvenue à vous.
Thank you very much.
Et accompagné de Xavier Combes à l'interprétation simultanée. Bonjour et bienvenue à vous aussi.
Bonjour.
Dans une société coopérative de production, est-il juste ou non que le talent ou l'habileté donne droit à une rémunération plus élevée? Ceux qui répondent négativement à la question font valoir l'argument suivant. Celui qui fait ce qu'il peut a le même mérite et ne doit pas en toute justice être placé dans une position d'infériorité s'il n'y a pas faute de sa part. À l'inverse, les autres disent « la société reçoit davantage du travailleur dont le rendement est supérieur ». Qui décidera entre ces appels à des principes de justice divergents? La justice, dans le cas en question, présente deux faces, entre lesquels il est impossible d'établir l'harmonie, et les deux adversaires ont choisi les deux faces opposées. Ce qui préoccupe l'un, c'est de déterminer en toute justice ce que l'individu doit recevoir. Ce qui préoccupe l'autre, c'est de déterminer en toute justice ce que la société doit donner. Chacun des deux, du point de vue où il est placé, est irréfutable. Et le choix entre ces points de vue, pour des raisons relevant de la justice, ne peut qu'être absolument arbitraire. C'est l'utilité sociale seule qui permet de décider entre l'un et l'autre.
Qu'est-ce que la cupidité? Qui est cupide? Ni vous, ni moi, c'est toujours l'autre qui est cupide. Ce qui fait tourner la Terre, c'est le fait que les individus cherchent à satisfaire leurs propres intérêts. Les grandes réalisations de la civilisation n'ont pas été faites par l'administration publique. Einstein n'a pas reçu de commande publique pour concevoir sa théorie. Les seules situations où les masses ont échappé à la pauvreté sont des situations où il y avait du capitalisme et du libre-échange. Ainsi, l'histoire nous montre très clairement qu'il n'y a pas d'autre façon de procéder pour améliorer le sort des masses que d'envisager des activités productives permises par le libre-échange. Oui, mais ça semble récompenser non pas la vertu, mais la capacité à manipuler le système. Alors qu'est-ce qui récompense la vertu, s'il vous plaît? Vous croyez que le système communiste, ça récompense la vertu? Excusez-moi, hein, mais vous croyez que les présidents américains récompensent la vertu? Est-il vrai que l'intérêt politique est plus noble que l'intérêt économique? Et puis, par ailleurs, dites-moi où on peut trouver ces fameux anges qui vont nous organiser la société? Même vous, je ne vous fais pas confiance pour organiser la société.
Michael Sandel, on vient d'entendre une archive de 1979 de Milton Friedman. C'est un économiste américain qui a grandement influencé ce courant dit du libertarianisme qui n'est pas connu en France, ou en tout cas qui n'existe pas en tant que tel en France. Et dans cette archive, il oppose d'un côté la vertu à la cupidité. C'est aussi de ces deux termes que parle votre ouvrage sur la justice. Et on entend que les gens rient à ce terme de vertu. À l'inverse, vous tentez de réhabiliter cette notion. Qu'est-ce que la vertu, selon vous, Michael Sandel?
Well, virtue, going back to Aristotle,
pour revenir à Aristote, la vertu, c'est une qualité de caractère qui mérite l'admiration, l'encouragement et qui mérite d'être cultivée. Mais quelle qualité de caractère? Comment traiter nos concitoyens de vertueux? Pour répondre à ces questions, nous devons nous lancer dans des débats difficiles sur la signification du bien et le sens du bien commun. Ce que nous venons d'entendre de la bouche de Milton Friedman, c'est un propos qui peut sembler fort extrême, notamment pour des auditeurs français. Cela dit, c'est un propos auquel les auditeurs américains sont plus habitués. En effet, il faut savoir que, donc, vous l'avez dit, Milton Friedman était économiste et c'était un libertarien. Vous l'avez également dit. Autrement dit, Milton Friedman n'était pas simplement contre la vertu. Il disait que la vertu était une idée purement relativiste. En plus de cela, il était contre toute forme de redistribution de revenus ou de richesses. Il était en faveur d'accepter une distribution de richesses ou de revenus pouvant résulter d'une économie tout à fait libéral, donc de laisser-faire économique. Encore une fois, pour les auditeurs français, cela semble être une position particulièrement extrême. Mais en réalité, ces idées, on le sait, ont eu beaucoup d'influence au cours des quatre dernières décennies. Donc depuis le moment où il a proféré ses propos qu'on a entendu dans cette archive. Au cours des 40 ou 30 dernières années, non seulement aux États-Unis, mais dans les sociétés capitalistes démocratiques partout dans le monde, donc depuis 30 ou 40 ans, nous avons vécu une foi dans les mécanismes de marché. Et l'une des finalités de mon propos et de mon livre en particulier, c'est de promouvoir la réflexion critique des hypothèses qui sous-tendent cette foi triomphante dans les mécanismes de marché qui a eu une influence sur la réflexion politique et l'idéologie politique sur l'ensemble du spectre politique.
Et pourquoi le faire à partir du terme de vertu, de cette notion de vertu? Qu'est-ce que vous permet cette notion qui, effectivement, sans tomber dans le libertarianisme qui s'en moque, est une notion, un terme, une valeur qui paraît assez inactuelle, et en France aussi?
It's a very good question, because one objection.
C'est une très bonne question parce que il y a une objection que l'on peut faire à ces idées de libertarianisme. C'est une objection qui serait en faveur de la redistribution des revenus et de la richesse pour parvenir à une justice de distribution, une certaine équité. Et cela, c'est tout à fait répandu dans le discours public qui porte sur les tenants et les aboutissants des États-providence dans les sociétés démocratiques. Et il s'agit également et surtout de propos de partis de centre-gauche, c'est vrai en Europe, mais aussi aux États-Unis. Parce que là, ces gens-là ont rejeté les idées d'un Milton Friedman en faveur d'un laisser-faire, non pas au nom de la vertu, mais au nom de l'équité, de ce qu'il est juste de faire. Mais moi, je dirais que cet argument qui va à l'encontre de l'idée libertarienne est un petit peu trop limité. En effet, cela évite d'aborder des questions sur la vie bonne, y compris les questions de vertu. Ainsi, il y a deux versions de philosophie politique progressiste. Alors, on sait que le terme libéral est un faux ami entre l'anglais et le français. Si on veut traduire le terme libéralisme, donc là, c'est le laisser-faire, laisser tout au mécanisme de marché. Donc, vous avez le néolibéralisme, voilà. Mais une autre interprétation du terme libéralisme, c'est John Rawls, par exemple, le philosophe américain. Là, il s'agit d'une philosophie qui soutient un modèle social, qui soutient l'État-providence et qui soutient un minimum fondamental de vie pour chacun. C'est ce à quoi je fais allusion lorsque je parle de l'idéologie des partis de centre-gauche, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Cela dit, il m'apparaît que l'idéologie de la pensée des partis de centre-gauche est un petit peu trop fragile pour engendrer une société juste. La raison est la suivante. Même dans les États-providence, on essaye de garder les idées de la vie bonne, de la vertu, de l'éducation civique et tous les arguments moraux à l'écart du discours public. Donc ça, c'est mon point de vue. Donc moi, je m'oppose non seulement à ce que dit Milton Friedman, mais je m'oppose à ces propos de centre-gauche qui veulent modérer l'économie de marché par la redistribution seule.
Votre livre est essentiellement polémique, on peut le dire, justement parce qu'il critique des modèles de justice, des modèles de redistribution des richesses. Plus de la moitié des chapitres est consacrée à cette critique-là. L'idée de vertu qui court tout le long du livre n'apparaît que dans les quatre derniers chapitres véritablement, là où vous faites référence à Aristote. On a entendu au début de l'émission un extrait de L'utilitarisme de 1863, c'est un texte de John Stuart Mill. L'utilitarisme est aussi un modèle de justice que vous critiquez. Pourtant, c'est une manière quand même d'inscrire la justice en rapport avec le bien, puisque c'est une manière quand même de fonder la répartition, la distribution des richesses sur le fait que ça maximise le bien-être d'un maximum d'individus. Qu'est-ce que vous reprochez à l'utilitarisme dans ce cas-là, qui permet d'articuler bien et juste aussi ?
Yes, it's true that utilitarianism can provide.
C'est vrai que l'utilitarisme peut effectivement soutenir la redistribution. sachant que si l'on prend 1 ou 10 dollars à Bill Gates et qu'on donne cette somme à une personne sans domicile fixe, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va accroître le bonheur de la personne sans domicile fixe plus que ça ne va réduire le bonheur d'un Bill Gates. Donc ça, c'est une idée utilitarienne en faveur de la redistribution.
But the utilitarian argument,
mais l'argument,
the utilitarian conception of justice,
enfin la conception de l'utilitarisme de la justice n'est pas bien fondée à mon avis. En effet, on ne fait pas la distinction entre la valeur morale de la préférence des intérêts ou des désirs ou des besoins moraux que l'on ajoute les uns aux autres pour les maximiser. Pour l'utilitarisme, la justice constitue une espèce de mathématique morale. Et tout ce qui est du ressort de l'utilitarisme fait l'objet d'un dénombrement. On compte, on ajoute, on compte, on ajoute. Sans pour autant porter de jugement sur la qualité, le caractère, la valeur ou la vertu des désirs et des préférences qui font l'objet de ce dénombrement et de cette maximisation. Par exemple, imaginons l'époque du Colisée de Rome, lorsque on jetait les chrétiens en pâture aux lions. Était-ce juste ou injuste? Du point de vue de l'utilitarisme, bien entendu, il est vrai que le chrétien qui se retrouve dans l'arène souffre énormément. Mais si il y a des milliers et des milliers de Romains qui tirent un grand plaisir de ce spectacle et qui hurlent de joie, eh bien, du point de vue du calcul utilitarien, eh bien, c'est difficile de rejeter cette pratique. Parce que l'utilitarisme ne fait qu'ajouter les préférences des individus sans porter de jugement sur ces préférences, sans déterminer la valeur morale de ces préférences. Voilà donc mon objection à l'utilitarisme. Parce que l'utilitarisme part du principe que toutes les valeurs peuvent être traduites dans une mesure uniforme du bien. Et typiquement, on se retrouve dans une situation où c'est l'argent qui joue un rôle. Donc l'utilitarisme, c'est une philosophie pour une économie de marché.
This man, I used to say, was the Babe Ruth of basketball. I've now come to believe that Babe Ruth was the Michael Jordan of baseball. Michael?
Everyone knows exactly what the circumstances are right now in terms of my decision not to play the game of basketball in the NBA. Reason being, I've heard a lot of different speculations about my reasons for not playing, but I've always stressed to people that have known me and the media that has followed me that when I lose the sense of motivation and the sense of to prove something as a basketball player, it's time for me to move away from the game of basketball.
Quand, en 1993, Michael Jordan annonça qu'il prenait sa retraite, les fans des Chicago Bulls furent désemparés. Il reviendra plus tard sur sa décision et sera encore pendant 3 saisons à la tête de l'équipe. Mais imaginez qu'en 1993, le conseil municipal de la ville de Chicago, ou pourquoi pas le Congrès des États-Unis, voulant apaiser la détresse des fans des Chicago Bulls, ait voté pour ce faire une loi imposant à Jordan de jouer au basketball 1/3 de la saison suivante. La plupart des gens considéreraient qu'une telle loi est injuste, qu'elle constitue une violation de la liberté de Jordan. Mais si le Congrès ne peut pas contraindre Jordan à fouler de nouveau les terrains de basket, pas même pour un tiers de la saison, en vertu de quel droit le contraint-il à reverser un tiers de l'argent qu'il a empoché en jouant au basket afin qu'il soit redistribué grâce aux impôts ? Michael Sandel, je viens de lire un extrait de votre livre Justice aussi en anglais d'ailleurs, dans lequel vous vous servez de cet exemple de la retraite de Michael Jordan. C'est un exemple qui vient en fait du philosophe libertarien aussi Robert Nozick, qui se sert de cet exemple-là pour montrer que il est injuste de demander de l'argent pour des impôts, pour l'État, pour l'utilité sociale, de demander de l'argent à quelqu'un qui ne doit cet argent qu'à lui-même. L'argument qui est en jeu, c'est celui de s'appartenir, d'être propriétaire de soi. C'est ce que vous critiquez par rapport au libertarianisme, mais ça engage au-delà de ça une véritable réflexion sur l'anthropologie, sur la manière de concevoir l'homme qui doit être au fondement de la justice, Michael Sandel.
Yes, it's the libertarian argues that taxation.
Les libertariens vous disent que la taxation en vue d'une redistribution est injuste.
Because it really represents
en effet,
the political community,
cela représente
claiming a property right,
le fait que la communauté
people who work and earn money
revendique un droit de propriété de la part de ceux qui gagnent de l'argent. Donc, la taxation est comparable sur le plan moral à forcer les gens à travailler un certain nombre d'heures pour l'État ou la communauté politique. Autrement dit, les libertariens pensent que la taxation en vue d'une redistribution, c'est une espèce d'esclavage. Bien entendu, je suis en désaccord avec cela. Mais pour autant, cela pose une problématique intéressante. Tout d'abord, sommes-nous propriétaires de nous-mêmes ? Sommes-nous notre propre propriété privée qui nous appartient, en quelque sorte ? Les libertariens répondent oui.
Et même beaucoup d'autres pensent ça.
And they challenge us.
Et du reste, les libertariens remettent en question la pensée de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Les gens qui sont en faveur d'une économie de marché nous demandent, mais ne pensez-vous pas que vous vous appartenez à vous-même ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous détient ? Est-ce que la communauté politique est propriétaire de vous ? Voilà la question qu'il pose. Ma réponse est la suivante. Nous ne sommes pas propriétaires de nous-mêmes. Mais les libertariens ont raison de dire que, d'un point de vue de principe, la taxation est imposée car la communauté ne peut pas nous demander de réaliser un service ou une tâche pour la communauté. Alors, n'appelons pas ça un travail forcé. Mais dans l'histoire, il y a des exemples de sociétés démocratiques qui imposent certaines obligations de service à la communauté de la part des citoyens. L'exemple le plus évident, c'est donc le service militaire, obligatoire en temps de guerre ou en temps de paix d'ailleurs. Il y a d'autres exemples. Par exemple, un service civique national obligatoire en dehors du champ militaire. Les libertariens ont raison sur le principe. Si nous ne sommes pas propriétaires de nous-mêmes, et à ce moment-là, la question reste ouverte. La communauté politique peut-elle nous imposer et la communauté politique peut-elle exiger de nous certaines formes de services civiques qui, plutôt que d'imposer des taxes, impose un travail ou une tâche. Pour revenir à la notion de vertu et de vertu civique, Jean-Jacques Rousseau aborde cette question directement. Rousseau nous dit en effet qu'il est erroné pour les citoyens démocratiques de ne faire les choses que par ou pour l'argent et rien par leur propre travail et ce pour la communauté. Du reste, Rousseau va au-delà de cela et il dit qu'il considère que le travail forcé est moins opposé à la liberté que l'impôt, les taxes. Donc, le contraire même de l'exemple de Michael Jordan, tel que cela est présenté par le philosophe libertarien Robert Nozick. Moi, je suis évidemment du côté de Rousseau. Rousseau qui était préoccupé non pas seulement par la redistribution, Rousseau était également préoccupé par le fait de cultiver la vertu civique. Et parfois, nous cultivons cette vertu civique et nous arrivons à une notion de citoyenneté partagée par le truchement de programmes de service national, de service civique, plutôt que de demander aux citoyens de payer leurs impôts. Donc Rousseau n'a pas tort.
Oui, mais Jean-Jacques Rousseau est aussi un penseur du contrat. Et c'est un penseur du contrat qui suppose que pour contracter, pour fonder une communauté politique avec quelqu'un d'autre, il faut encore que quelque chose nous appartienne et qu'on puisse le léguer à la communauté. Or, si on part du principe, comme vous le soutenez, Michael Sandel, que le corps ne nous appartient pas, comment vous pouvez penser encore l'idée même de fonder une communauté? Qu'est-ce qu'on va partager? Qu'est-ce qu'on va avoir en commun finalement si plus rien ne nous appartient? Et à partir de quoi, à partir de quels critères on va décider de cette constitution politique si on n'a même plus un point de repère, ne serait-ce qu'individuel?
Well, I think we should reject the image of property.
Je crois que nous devons rejeter l'image de propriété, qu'il s'agisse de propriété privée ou de propriété de la communauté, lorsque l'on pense à la justice ou lorsque l'on essaye de penser à soi-même. Je crois que c'est une erreur de penser que notre personne nous appartient ou appartient à quiconque d'ailleurs, qu'il s'agisse d'un propriétaire individuel ou collectif. Je crois que la métaphore de la propriété est trompeuse. Il ne devrait pas être question de propriété s'agissant de la personne. Donc votre question est tout à fait pertinente. Comment alors envisager la notion de justice? Comment réfléchir à la façon dont les choses bonnes doivent être redistribuées?
Well, here I draw in the book and in the lectures.
Dans mon ouvrage et dans mes conférences, je puise chez Aristote.
Who, in some way, gives what is,
à bien des égards,
an obvious answer,
Aristote nous donne une réponse assez évidente, quelque chose qui nous est familier. Aristote nous dit la justice, c'est donner aux gens ce qu'ils méritent.
Now, you may think
alors,
this is much too simple.
On peut trouver cela simpliste.
The hard question,
la question plus ardue, c'est qui mérite quoi et pourquoi. Aristote apporte un début de réponse avec l'exemple de la flûte, cet instrument de musique. Imaginons que nous distribuions des flûtes. Qui aura la meilleure flûte? Vous, votre réponse, c'est quoi intuitivement?
Encore faut-il savoir quelle est la meilleure flûte, c'est-à-dire non pas tant à qui revient la meilleure flûte, mais déjà dire quelle est la meilleure flûte. Comment on définit déjà, sur quels critères on peut hiérarchiser des flûtes?
Très bien, imaginons qu'on est d'accord sur quelle est la meilleure flûte.
To a Stradivarius violin.
Allez, on va prendre un violon, un Stradivarius.
You have two violins.
Le meilleur.
Vous avez deux violons.
Aristote
et Stradivarius, c'est anachronique. On est d'accord. Donc, nous voilà dans une situation où vous avez un Stradivarius et vous avez un violon de moindre qualité, des violons de moindre qualité. Qui mérite le Stradivarius? D'un point de vue intuitif, répondez.
Celui qui en jouera le mieux.
OK.
Et encore, on ne sait pas. Et encore, on ne sait pas sur quels critères on peut savoir qui en joue mieux. Est-ce qu'il va jouer le mieux? Est-ce qu'il va en jouer le mieux parce qu'il a le meilleur instrument? Est-ce que ça veut dire qu'il a déjà une connaissance de la musique? Enfin, celui qui joue le mieux du violon, finalement, on ne le sait qu'après coup, en fait, qu'une fois qu'il a déjà commencé à jouer.
Ok, but suppose we can conduct an audition.
Imaginons que l'on puisse mener une audition.
Orchestras conduct auditions.
C'est ce que l'on fait lorsque des orchestres recrutent des musiciens.
Eligible people,
et qu'il y ait des gens sachant qui sont capables de déterminer qui sont les meilleurs violonistes. Bon, ces jugements-là, nous les portons. Et imaginons que ça marche dans ce cas-là. Donc vous dites, et Aristote est d'accord avec vous d'ailleurs, vous dites que le Stradivarius doit être donné au meilleur violoniste. Bien. C'est qui le meilleur violoniste pour vous d'ailleurs?
Oula, Isaac Stern, allez, okay. Allez.
D'accord. But the philosophical question
mais is not la question philosophique, ce n'est pas de déterminer qui est le meilleur violoniste. La question philosophique, c'est... Pourquoi est-ce, pourquoi pensez-vous qu'il est juste que le meilleur violoniste soit celui qui reçoit le Stradivarius? Pourquoi? On pourrait dire que le meilleur violoniste va créer la meilleure musique.
That will benefit everyone.
Et cette musique profitera à tous. Et ça augmentera le bonheur des auditeurs et de la société. Voilà une réponse possible.
On pourrait aussi objecter à Aristote qu'on peut donner le meilleur violon au plus mauvais musicien pour que sa musique soit meilleure. On peut aussi objecter à Aristote qu'on peut donner le meilleur violon à celui qui passe le plus de temps à s'entraîner à jouer de la musique.
Ok, then let's take those.
Oui, très bien. Envisageons ces possibilités-là. Mais avant, si vous le permettez, la raison que je viens de vous donner, donc l'augmentation du bonheur de la collectivité des auditeurs, ça nous replonge dans l'utilitarisme. La justice, c'est la maximisation du bonheur d'une façon générale, le bonheur de la société. Personne ne prend du plaisir à écouter un mauvais violoniste jouer du violon. Bon, tout le monde est heureux si c'est le meilleur violoniste qui joue du violon, notamment sur le meilleur violon. Alors, c'est pas la raison qu'évoque Aristote, hein. Ça, c'est la raison de l'utilitarisme. C'est la raison que vous donnerez un Bentham ou un John Stuart Mill. Aristote est d'accord avec vous dans votre première réponse, à savoir que le Stradivarius doit être donné au meilleur violoniste. Non pas pour des raisons d'utilitarisme, mais parce que Aristote explique que c'est la fonction même des violons. C'est la fonction du violon, c'est d'être bien joué. Aristote exprime la notion de finalité, de fonction de la performance musicale. Le terme grec, c'est le telos de la performance musicale. Donc, les Stradivarius sont conçus pour être bien joués. Ce peut sembler une raison étrange, mais c'est lié à la notion aristotélicienne d'honneur et de vertu. Donc, c'est la vertu, l'honneur et la reconnaissance. La raison pour laquelle nous avons des salles de concert formidables, c'est pas seulement pour tirer un quelconque plaisir de la musique, c'est aussi parce que ceux qui sont excellents dans le domaine de la vertu, en l'occurrence de la performance musicale, méritent l'honneur et la reconnaissance. Ils montrent l'exemple pour le reste de la communauté. Donc, le bien, l'excellence, la vertu de la performance musicale. Alors, tout cela peut sembler assez étrange lorsque nous parlons de violon. Mais Aristote demande comment il faut distribuer l'autorité. L'autorité politique, est-ce qu'il faut une voix par personne? Est-ce qu'il faut que les riches, les oligarques, détiennent le plus de pouvoir et d'influence? Aristote nous dit que pour distribuer les honneurs, les différents niveaux de citoyenneté et l'autorité politique, il faut poser la question suivante. Quelle est la finalité de la communauté politique? Quel est le telos, donc, de communauté politique?
Mais ce qui pose problème avec cet exemple du violon, c'est qu'il y a des bons et des mauvais violons. Or, du point de vue des libéraux, les droits sont neutres. Il n'y a pas de bons et de mauvais droits. Donc tout le monde peut en bénéficier également. Le problème, c'est pourquoi il y aurait des mauvais violons qui seraient produits? Pourquoi ne pas produire que des bons violons à ce moment-là? Comme ça, tout le monde serait content et l'égalité serait préservée.
Well, you're right that it seems the violin example.
Vous avez raison de dire que cet exemple de violon s'applique difficilement à la politique et aux droits et aux notions de démocratie. Parce que dans le domaine de la politique, il faudrait que l'on débatte de la nature même du bien, de la communauté politique, le sens du bien. Qu'est-ce que c'est que d'être un bon citoyen? Mais vous avez raison, c'est tout à fait contraire à la philosophie politique libérale, parce que là, on insiste que les questions liées à la vie bonne, les questions de vertu, les questions d'excellence, les questions de vertu civique même, sont controversées. Ainsi, nous devrions essayer d'allouer les biens et les opportunités du bien à l'aune de ces notions de vertu. Et Aristote est en désaccord avec cela. Et moi, je suis d'accord avec Aristote. Comment décider de ce qui est bien dans une communauté politique? Quel est le telos de la cité ou de l'État-nation? Quelle en est la finalité? Eh bien, à notre époque, nous partons du principe que le but de la démocratie, c'est d'ajouter les intérêts des individus les uns aux autres. Mais peut-être qu'il s'agit là d'une vision appauvrie de la finalité de la démocratie. En réalité, c'est assez consumériste, ce point de vue sur la finalité de la démocratie. Et Aristote nous dit, et encore je suis d'accord avec lui, il nous dit que la finalité de la démocratie, de la communauté politique, c'est pas simplement la satisfaction des préférences des individus. C'est de cultiver la vertu civique. La finalité de la communauté politique, c'est d'éduquer nos préférences pour les maintenir à l'écart de notions matérialistes et consuméristes et de privilégier au contraire une compréhension du bien commun.
Aristote, que vous citez dans son texte Les Politiques, dit que le but de l'association politique n'est pas de vivre ensemble, mais de faire des belles actions. Right. Et le problème, dès que l'on articule l'idée d'une justice avec une finalité, avec l'idée d'un bien, c'est qu'on est confronté effectivement à la définition de ce bien. Yes. Et que Aristote, à son époque, vivait dans une représentation de la démocratie qui n'est pas la même que la nôtre, dont les conditions ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le modèle d'Aristote de la démocratie n'est pas forcément exportable aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de taille, en termes d'appartenance. On est dans des situations de multiculturalisme et dans des sociétés capitalistes. Comment on peut, du coup, définir ce bien dès lors qu'on est dans des sociétés qui dépassent les normes d'Aristote, en fait, les normes en termes de culture, d'économie et de politique?
Well, it's of course a very good question. Ancient Athens,
oui, vous avez tout à fait raison. Athènes était différente des communautés politiques que nous connaissons aujourd'hui. L'ère de l'État-nation et l'ère de la mondialisation que nous connaissons est radicalement différente de l'Athènes de l'Antiquité. Néanmoins, chez Aristote, il y a une réflexion fort intéressante sur la justice et la politique. Et à mon avis, Aristote peut nous apporter une façon de corriger nos façons contemporaines d'envisager la politique et la démocratie. Et du reste, Rousseau partage ce point de vue. Et le point de vue est le suivant. Aujourd'hui, nous avons tendance à envisager la politique comme étant l'économie par d'autres moyens. Donner aux gens ce qu'ils veulent en ajoutant les préférences individuelles les unes aux autres, là c'est une vision utilitaire de la démocratie purement matérialiste et consumériste. Mais à mon sens, ce que l'on peut apprendre chez Aristote et Rousseau, c'est le fait que la communauté politique est plus noble que la simple satisfaction de nos intérêts matériels. La communauté politique, c'est la culture d'un mode de vie partagé. C'est savoir cultiver la capacité qu'ont les citoyens de débattre ensemble du bien commun. Un bien commun qui va au-delà de la somme des préférences des individus. Et aujourd'hui, nous sommes en proie à cette lutte. Prenez l'Union européenne, par exemple. L'Union européenne est née sous forme d'alliance économique. Et l'espoir des pères fondateurs de l'Union européenne, c'était que, à terme, cela permettrait de forger une nouvelle identité européenne, une identité partagée, une identité de solidarité, de responsabilité mutuelle, une identité européenne. Et donc c'est un projet moral et culturel, ô combien noble. Aujourd'hui, l'Union européenne est en proie à cette lutte entre une association purement économique et, par ailleurs, une association qui vise un bien commun plus noble que les simples mécanismes de marché. Eh bien, c'est un dilemme. Ce dilemme est éclairé par les conceptions philosophiques d'un Aristote ou d'un Rousseau. C'est l'idée d'un bien commun qui forge les vertus civiques des citoyens, plutôt que d'essayer de simplement assouvir leurs intérêts consuméristes de manière plus efficace.
Hey Sandy, Jerry Abraham, remember me? We grew up together.
Of course, yes, miss, the other day. Of course I remember you. Why should I forget you?
Jerry Abraham, tu te souviens de moi? On a grandi ensemble.
Ah oui, bien sûr, tu m'as déjà demandé ça l'autre jour. Bien sûr, je me souviens de toi. Pourquoi est-ce que je t'aurais oublié?
Bah, tu sais, les gens grandissent, ils deviennent de gros bonnets, ils oublient.
On a joué au foot avec des boîtes de concert.
Ouais, on est aussi allés à l'école hébraïque.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques?
Tu sais ce que je fais maintenant? Je suis chauffeur de taxi.
Mais t'as l'air en forme, tu sais, y a pas de sous-métier.
Ouais, mais regarde-moi par rapport à toi. Enfin, je veux dire, toutes ces superbes gonzesses.
J'ai mal à la tête. Notre
siècle est formidable.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, j'étais le gosse du quartier qui racontait des blagues. Ouais. Alors, nous vivons dans une société qui place les blagues au-dessus de tout. Tu vois, et d'un autre côté, si j'avais été un indien apache, et bien ces mecs-là n'auraient pas besoin de comique, n'est-ce pas?
Alors?
Oui, ben, je serais au chômage.
Oh, quand même. Hey, c'est pas si, avec ça que tu me remontes le moral, tu sais.
Mais je sais pas quoi te dire. Moi, j'ai eu de ces migraines. Question de chance. La chance, c'est tout. J'ai eu que de la chance. Je suis le premier à le reconnaître. J'ai eu un pot de cocu. Si j'étais pas né à Brooklyn, si j'étais né en Pologne ou à Berlin, ben, aujourd'hui, je serais un abat-jour. Enfin, tu sais, il suffisait de rien. Hein.
Nous pouvons rejeter l'affirmation selon laquelle l'organisation des institutions est toujours imparfaite parce que la répartition des talents naturels et les contingences sociales sont toujours injustes et que cette injustice retentit inévitablement sur les organisations humaines. Souvent, cette réflexion sert d'excuse pour méconnaître l'injustice, comme si le refus d'accepter l'injustice était de même nature que l'impossibilité d'accepter la mort. La répartition naturelle n'est ni injuste ni juste. Il n'est pas non plus injuste que certains naissent dans certaines positions sociales particulières. Il s'agit seulement de faits naturels. Ce qui est juste ou injuste, par contre, c'est la façon dont les institutions traitent ces faits. Les sociétés aristocratiques ou de caste sont injustes, parce qu'elles font de ces contingences le moyen de répartir les hommes entre des classes sociales plus ou moins fermées et privilégiées. La structure de base de ces sociétés fait sien l'arbitraire qui se trouve dans la nature. Mais aucune nécessité ne contraint les hommes à se résigner à ces contingences. Le système social n'est pas un ordre intangible échappant au contrôle des hommes, mais un mode d'action humaine. Dans la théorie de justice comme équité, les hommes sont d'accord pour ne se servir des accidents de la nature et du contexte social que dans la perspective de l'avantage commun.
Michael Sandel, c'est un texte très beau qu'on a entendu, c'est un texte extrait de la théorie de la justice de John Rawls. Alors ce texte a cadré tout le débat actuel sur la justice entre les libéraux d'un côté et les communautariens de l'autre depuis 1971. Et vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec John Rawls, néanmoins vous trouvez que ce texte est émouvant. C'est vrai qu'il il pose bien le problème du fait de ne pas se servir des accidents de la nature pour justifier des inégalités. Comment compenser ces inégalités naturelles selon vous en intégrant, en injectant cette idée de bien?
I think the text we just heard of John Rawls is powerful and moving.
Le texte de John Rawls que nous venons d'entendre est à la fois puissant et émouvant. Je ne suis pas en désaccord avec ce passage. C'est particulièrement puissant parce qu'il met en exergue le rôle du hasard et de la chance pour arriver à certains résultats dans les sociétés de marché. Parce que même si les gens ont une égalité des chances pour exercer leur talent, il se pose néanmoins une question liée en grande part au hasard et à la chance, question de savoir quel talent, quelles compétences sont les plus prisées et récompensées dans nos sociétés. C'est pourquoi, dans mon ouvrage, j'utilise l'exemple tiré de Stardust Memories de Woody Allen que nous avons également entendu. Woody Allen joue avec cette idée de chance et de hasard. Woody Allen, lui, a eu beaucoup de chance. Il parle à un vieil ami qui est chauffeur de taxi et qui se plaint de son sort. Et Woody Allen, qui est un petit peu gêné aux entournures, vous me direz, il l'est souvent, dit, eh bien, moi, j'ai eu de la chance parce que, dit-il, nous vivons dans une société où les humoristes sont particulièrement bien récompensés. Mais dans d'autres sociétés, les humoristes ne sont guère prisés. Du moins, pas les, on ne prise guère les humoristes à la Woody Allen. Bref, cet exemple, je l'utilise pour illustrer ce que nous dit John Rawls sur la distribution du revenu, de la richesse, du pouvoir et des opportunités n'est pas simplement lié à nous. Ce n'est pas forcément les gens qui ont de la chance qui méritent le plus. Et par ailleurs, c'est particulièrement important pour les chanceux de se souvenir de cela. Sinon, la méritocratie sera particulièrement bien ancrée dans une situation où les gens qui ont de la chance pensent mériter sur le plan moral d'être en haut de l'échelle et n'ont en aucun cas besoin de partager quoi que ce soit avec ceux qui ont moins de chance de par leurs origines, de par leurs compétences et ainsi de suite. Donc, je dirais que c'est un point très important qu'évoque Rawls là. Mais là où je suis en désaccord avec Rawls, c'est en ceci. Il pense qu'il est possible d'arbitrer la contingence du sort des individus par une théorie libérale de la justice. La justice sous forme d'équité. Dans cette situation-là, les gens mettent de côté leurs caractéristiques singulières. Les gens, donc d'après Rawls, les gens devraient considérer la justice au travers d'un voile d'ignorance, comme si, de manière temporaire, on puisse oublier notre point d'arrivée dans la société, que nous soyons riches, pauvres, forts, faibles, en bonne santé, en mauvaise santé. Il faut mettre de côté notre singularité de sexe, de race, notre identité, notre passé historique, ainsi de suite. Et si on menait une telle expérience intellectuelle, on arriverait à une certaine neutralité face à ces singularités identitaires. et on arriverait à une certaine neutralité par rapport aux convictions morales et spirituelles qui sont les nôtres. On arriverait à une certaine neutralité quant à notre conception du bien. Et c'est là que je suis en désaccord. Moi, à mon avis, pour arriver à une société capable d'aborder cette conception de chance et de hasard, eh bien, il faut cultiver un sens plus profond de communauté et d'identité partagée et de délibération quant aux conceptions du bien. Moi, je crois que la seule façon de créer une communauté de sort partagé, la seule façon de créer une communauté de solidarité et de responsabilité mutuelle, c'est d'aborder un projet de délibération commune quant aux convictions morales et spirituelles que l'on intègre dans la vie publique. Donc, je suis opposé à cette démarche qui consiste à prendre l'équité sous forme de conception apparemment neutre, alors qu'il faut s'intéresser aux conceptions de la vie bonne, aux conceptions de vertu, les conceptions morales et spirituelles qui sont les nôtres, parce que nous devons penser à nous-mêmes comme étant sans ancrage, sans lien à quelque origine, et ainsi de suite. Mais au contraire, à mon avis, il faut aborder ces singularités, les prendre à bras le corps, prendre notre passé, notre apanage, tout notre bagage et l'intégrer dans le discours public.
Merci beaucoup Michael Sandel. Merci Xavier Combes. Merci à vous, Michael Sandel. On se quitte sur un morceau interprété par Isaac Stern. Et je rappelle que votre livre s'intitule « Justice », qu'il est disponible chez Albin Michel dans une traduction de Patrick Savidan. Et puis aussi qu'on peut lire de vous « Ce que l'argent ne saurait acheter », c'est aussi paru chez Albin Michel. Et puis aussi « Le libéralisme et les limites de la justice », là c'est disponible au Seuil. Et puis un grand merci à vous, Xavier Combes, pour l'interprétation simultanée. Et quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons non pas demain, mais lundi pour une nouvelle semaine des Nouveaux Chemins où nous évoquerons la répétition, celle de Kierkegaard, l'éternel retour de Nietzsche, différences et répétitions selon Deleuze et enfin la répétition musicale. Et quant à vous, eh bien pour réécouter cette émission et toutes celles de cette semaine consacrées à la pudeur, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure pour vous de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.